Les chemins de la connaissance, cette semaine, la vérité des mythes. Aujourd'hui, Freud et les mythes avec Paul-Laurent Hassoun, psychanalyste et professeur de psychopathologie à l'université de Paris 7. La psychanalyse s'est très vite intéressée aux mythes et à leur noyau de vérité, c'est-à-dire à ce que les mythes, dans leur langage imagé, parfois hermétique, nous révèlent de la nature humaine, de ses impasses et de ses stupeurs. En ce sens, Freud aurait pu dire, comme Claude Lévi-Strauss, que le mythe est perçu comme mythe par tout lecteur du monde entier, car c'est plutôt le contenu et la signification universelle du mythe qui est visé là. Encore, cette attitude est-elle ambivalente, Paul-Laurent Hassoun, car sous cette enveloppe fictionnel, le mythe peut aussi exercer un pouvoir d'illusion pour maquiller les contenus inconscients. C'est ce que nous révèle donc la lecture de l'ouvrage très, très célèbre de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne.
Oui, c'est dans ce texte que Freud, pour la première fois, parle des mythes de façon spécifique. Vous savez que psychopathologie de la vie quotidienne, c'est l'étude des symptômes sociaux, on pourrait dire, modernes, c'est-à-dire des actes manqués, des lapsus qui sont devenus célèbres. Or, il parle aussi des mythes. Pourquoi ? Parce que, son idée, c'est que les mythes, qui, au fond, les grands mythes qui cherchent à donner une réponse essentielle aux grandes énigmes, c'est-à-dire l'origine, la connaissance, sont issus eux-mêmes de forces psychiques internes. C'est-à-dire ce sont des produits projectifs, en quelque sorte. Alors, ça veut dire concrètement que comme vous venez de le dire, quand on a affaire à un mythe, ce mythe, c'est essentiellement un récit. Un récit qui cherche à répondre à des questions essentielles qui correspondent au groupe culturel qui écrit. C'est une sorte d'écriture du groupe par lui-même. Or, pour Freud, il ne faut pas chercher les mythes comme ni venant du ciel, ni comme étant purement sociologiques. Il s'agit de la façon dont les sujets mettent dehors leur inconscient, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est sa théorie de la perception endopsychique. En clair, ça signifie que nous percevons tous en nous des forces pulsionnelles, obscures, dont nous ne pouvons pas vraiment prendre connaissance, mais nous les percevons quand même implicitement. Donc, une manière d'en prendre connaissance sans les faire passer directement dans le conscient, c'est de les projeter dans des récits. Et ces récits fabuleux sont les mythes.
Alors, pour à l'appui, justement, Paul-Laurent Hassoun, de ce que vous dites, je cite cette lettre adressée à Fliess à propos, justement, de psychopathologie de la vie quotidienne. Il demande donc à son interlocuteur, « Imagines-tu ce que peuvent être les mythes endopsychiques ? L'obscure perception interne par le sujet de son propre appareil psychique suscite des illusions qui, naturellement, se trouvent projetées au dehors et de façon caractéristique dans l'avenir, dans un au-delà. » L'immortalité, la récompense, tout l'au-delà, telles sont les conceptions de notre psyché interne. C'est une psychomythologie.
Voilà, vous avez cité le texte essentiel. Une psychomythologie dit même une psychologie projetée dans le monde extérieur. C'est bizarre, parce qu'une psychologie, pour nous, c'est quelque chose qui est interne. Mais je crois que c'est un bon départ sur la question psychanalytique du mythe, c'est-à-dire qu'on peut déchiffrer la mythologie, si j'ose dire la mythologique, comme une véritable psychologie, mais une psychologie qui ne se sait pas en tant que telle. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que les mythes ? C'est des belles histoires, un peu comme chez Razad, il y a mille et une nuits. C'est-à-dire, c'est un récit qui n'en finit pas. La démarche de la psychanalyse, c'est de dire peut-être aussi, ne nous laissons pas entièrement séduire par le mythe. C'est-à-dire, d'un côté, le mythe contient une vérité inconsciente, d'autre part, il cherche à voiler en permanence la vérité qu'il met à jour. C'est ce qui explique, on va sans doute en parler, que Freud lui-même, en travaillant avec les névrosés et en travaillant avec les rêves, car au fond, les symptômes, les rêves, ont la même structure que les mythes. Il va mettre à jour, finalement, des significations inconscientes cachées. Jamais, contrairement à Jung, il est bon de le dire d'emblée, contrairement à Jung, oui. Qui est un grand mythologue, peut-être même que Jung a cessé d'être un analyste au sens strict, à partir du moment où il a été fasciné... Par l'inconscient collectif, noyé dans les mythes. J'ai souvent remarqué que les spécialistes des mythes, au fond, eux-mêmes sont noyés dans la profusion des mythes qu'ils lisent.
Le lecteur en a vite l'impression.
Voilà. Alors, l'idée de Freud, c'est que cette histoire, quand même, a une signification. C'est pas pour réduire le mythe à un mensonge, mais à une fabulation... qui a un sens, et ce sens, plus exactement, il y a un signifiant qui travaille. dans les mythes. Et c'est pour ça d'ailleurs que Freud n'a jamais, ça m'a frappé, parce que dans l'ensemble de son œuvre, il y a des dizaines d'allusions à des mythes et de travail partiel sur les mythes, mais jamais vraiment une lecture entièrement globale. Certes, il y a le mythe de Prométhée qui développe, certes le mythe d'Œdipe est là, le mythe de Narcisse est là, mais par exemple, il ne fait jamais une étude exhaustive du mythe lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est...
Le mythème, dans le fond.
C'est le mythème, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'il fait une analyse, au fond, structurale. Freud n'est pas structuraliste au sens moderne, mais c'est ce qui, vous voyez, c'est là où tout se tient, c'est ce qui justifiera un certain Lacan à reprendre la méthode structurale de Freud, en la combinant, si je peux dire, avec l'approche de Lévi-Strauss que vous citiez, pour produire une théorie alors carrément structurale de l'inconscient.
Alors, ça montre à quel point, Paul-Laurent Hassoun, le mythe est envisagé, considéré par Freud dans toute sa complexité, puisque vous dites en somme, le mythe, ça peut être donc ce discours, ce récit fabuleux des origines tel qu'il nous a été transmis par la tradition ou par la littérature, mais c'est aussi une capacité de production interne du sujet.
Tout à fait.
C'est lié au travail de l'inconscient. Il y a une réalité, je dirais, multipolaire du mythe.
Voilà, alors la bonne méthode en psychanalyse, j'essaie de caractériser la contribution spécifiquement freudienne à la vaste question du mythe. La bonne méthode, c'est de ne pas croire d'emblée qu'il y a une sorte d'inconscient, grand ou petit, qui serait caché dans le mythe et qu'il s'agirait d'extraire. C'est la problématique du sens.
Oui, et c'est un peu l'optique de Carl Gustav Jung.
Voilà, et Jung d'ailleurs amplifiant sans arrêt en essayant de capturer au fond l'inconscient qui est pris dans le mythe, qui a pris corps dans le mythe. L'idée, c'est plutôt de prendre l'enveloppe formelle du mythe. C'est l'expression que Lacan emploie à propos du symptôme, on peut l'appliquer au mythe. Quand on a affaire à un mythe, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement structuré. Alors, comment est-ce qu'on va travailler? En essayant de repérer un trait significatif, intéressant, par où l'origine de la pensée inconsciente du mythe se trahit. Mmh. Un peu comme on fait avec un fantasme, par exemple. Mmh. Vous voyez, un fantasme individuel, c'est un récit qui est très structuré, mais on voit un petit détail que ce fantasme a une origine inconsciente. Et donc, on va prendre un trait. Mmh.
Pour le complexe d'Œdipe, par exemple, il constate que le complexe de castration a laissé des traces frappantes dans les mythes.
Voilà, le complexe d'Œdipe, n'est-ce pas, est un concept nucléaire, enfin, c'est-à-dire central, générateur dans l'inconscient. Ce qui veut dire que tout petit homme, comme dit Freud, hein, bon, citant Kipling d'une certaine manière, hein, tout petit homme à un certain moment a besoin, pour se situer lui dans son désir par rapport à ses parents, de devenir un petit mythologue. Voilà, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que y a des gens qui croient pas au complexe d'Œdipe, mais pas plus qu'un mythe. C'est un mythe produit par le sujet. Hein. Tout enfant a une imagination œdipienne. Mmh. Cette histoire de castration, c'est un mythe, puisqu'il est très rare que les pères aient vraiment l'intention de castrer leur propre rejeton. Mais le petit Œdipe a besoin à un certain moment de forger cette histoire pour se donner une version de son histoire. Même la phobie infantile, c'est une sorte de mythe à un certain moment. Hein. Le cheval du petit Hans, c'est un mythe. Donc voilà, à partir de là, on peut étudier les significations inconscientes et à partir de traits. Un seul exemple, par exemple, le fameux mythe d'Ariane du labyrinthe. Freud nous dit... Attention, il ne veut pas expliquer le mythe dans toutes ses significations et sa richesse, mais il dit, ça nous rappelle un mythe personnel de l'enfant, de la naissance anale. Puisque quand les enfants se demandent comment ils naissent, ils s'imaginent à un certain moment que c'est un peu sur le modèle de l'expulsion, c'est pas des fécales, c'est-à-dire au fond sur le modèle anal. Eh bien, regardez le mythe du labyrinthe, ça rappelle l'intestin, les boyaux d'une certaine manière, dont on ne sort jamais, et le fil d'Ariane, eh bien, c'est le cordon ombilical. Voilà, on peut avoir l'impression qu'il réduit ça à quelque chose d'assez sommaire, mais en fait, c'est pour montrer comment l'imagination humaine est pulsionnelle et elle porte à l'expression des choses très complexes. Le mythe pousse la pulsion vers le haut, hein, c'est toujours des choses qui renvoient à l'origine du monde, mais au fond, ça ne tombe pas du ciel, c'est une façon dont le sujet résonne en quelque sorte et écrit le rapport à ses propulsions, ses conflits.
On va voir, Paul-Laurent Hassoun, que ce qui fait le lien entre tous ces différents niveaux et ordres de réalité, c'est le langage symbolique, qui est à la fois le langage des rêves, des mythes, etc. Oui. Mais tout de même, pour en finir, enfin, si j'ose dire, sur cette question, Freud dit ailleurs également que les souvenirs d'enfance individuels, quant à leur forme, présentent une remarquable analogie avec les souvenirs d'enfance des peuples, tels qu'ils sont figurés dans les légendes et dans les mythes.
Oui, il appelle ça les rêveries séculaires de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a, il ne croit pas à l'inconscient collectif, mais il croit par contre qu'il y a, au cours même de l'évolution des fantasmes collectifs, l'élaboration de thèmes. Il est même fascinant de voir que le petit homme retrouve les traces de ces mythes. Il se branche, si je peux dire, sur ces fantasmes collectifs, mais pour les besoins de son travail spécifique. Et ça, vous prononcez un mot important, le symbolique. Il y a aussi des symboles dans le rêve. Ce qui est très curieux, c'est que sans savoir la langue des symboles, nous la parlons dans notre rêve. Freud l'exprime joliment, il dit c'est comme si une domestique qui est née en Bohème et qui est analphabète, elle savait parler sanskrit. Voilà. Et bien dans son rêve, tout le monde parle sanskrit. Hein.
Alors, Paul-Laurent Hassoun, écoutons, si vous voulez bien, le seul mythe qu'ait produit Freud lui-même, enfin, en tout cas dans son œuvre, hein, puisqu'on peut imaginer que dans ses rêves, comme nous tous, il en produisait. Et c'est donc le mythe du meurtre du père dans Totem et Tabou.
Un jour, les frères qui avaient été chassés se coalisèrent, tuèrent et mangèrent le père, mettant fin ainsi à la horde paternelle. Unis, ils osèrent entreprendre et réalisèrent ce qui leur aurait été impossible de faire isolément. S'il est vrai que les frères s'étaient ligués pour triompher du père, auprès des femmes ils étaient rivaux l'un de l'autre. Chacun aurait voulu les avoir toutes pour lui, à l'instar du père, et la nouvelle organisation aurait péri dans la lutte généralisée. Ainsi, il ne resta plus aux frères, s'ils voulaient vivre ensemble, qu'à instituer l'interdiction de l'inceste, par laquelle ils renonçaient tous à la fois aux femmes convoitées, bien que ce fût avant tout à cause d'elles qu'ils avaient éliminé le père.
Voilà, Freud, Totem et Tabou, le mythe du meurtre du père, dans la version de Freud.
Voilà, c'est un grand texte, hein, bien sûr, c'est en 1912-1913. Voilà, Freud appelle ça, expression curieuse, un mythe scientifique. Habituellement, on oppose le mythe à la science. Hein. Il appelle ça un mythe scientifique, pourquoi ? C'est une vaste question, hein, c'est que, qu'est-ce qui prend Freud, au fond, d'écrire un nouveau mythe ? Eh bien, d'abord, c'est sur la base de l'expérience de la névrose, c'est-à-dire c'est un mythe névrotique, c'est-à-dire à un certain moment, tous les sujets humains rêvent de la mort du père. Mais il va plus loin dans ce texte, il pense qu'à l'origine, on peut supposer, sur la base d'un examen des théories ethnologiques, du totem et du tabou, qu'il y a eu un moment de l'humanité, ça paraît purement spéculatif bien sûr, mais un moment d'humanité où il y a eu une horde primitive, dirigée par le mâle le plus puissant, le père, et qu'à un certain moment, ce père insupportable, parce qu'il possédait toutes les femmes, enfin, pour le dire cyniquement, tous les biens sexuels, mais ça, c'est en quelque sorte un constat des rapports de force d'origine, d'après Freud. Bon, à un certain moment, les fils en ont assez, se sont coalisés et ont mis à mort le père. Alors, ce mythe, on peut dire, il y a bien d'autres mythes qui sont plus riches que ce mythe-là, hein. Mais ce mythe, voilà mon hypothèse, ce que j'ai essayé de développer dans mon texte sur Freud et les sciences sociales, c'est que c'est le mythe qui sert à Freud, à démythifier les mythes. C'est-à-dire qu'au fond, en allant vite, je dirais la chose suivante, c'est-à-dire que tous les mythes avec leur histoire de naissance, d'origine, etc., veulent cacher la réalité que le mythe freudien porte à l'expression, si je peux dire. C'est-à-dire le rapport fondamental du sujet humain à l'interdit. Alors il y a des mythes beaucoup plus riches, mais ce mythe-là, c'est un opérateur de démythification des mythes, mais c'est pas seulement négatif, bien sûr. Ça peut permettre de relire les autres mythes pour montrer comment, à travers ces mythes, les sujets, les groupes, cherchent à porter à l'expression, et à écrire, de façon fabulatrice donc, leur rapport au sexuel, au désir, à la mort, et finalement au père originaire. Voilà.
Alors, ce qu'il faut peut-être quand même préciser, pour nuancer un petit peu vos propos, Paul-Laurent Hassoun, c'est que pour ce livre, Freud avait lu les anthropologues de son temps, notamment Franz Boas et Freiser, qu'il cite souvent. Voilà, donc il y a un travail.
Taylor, Robert Anton Smith.
Il y a un travail d'élaboration qui est en partie occulté.
Oui, c'est-à-dire que Freud partait des textes ethnologiques. Mmh. Hein. C'était un ethnologue amateur, certes, mais quand vous lisez Totem et Tabou, vous apercevez qu'il a fait une sacrée compilation des textes. Il a acquis très rapidement un niveau de doctorat, si j'ose dire, en ethnologie. Mais pourquoi ? Pour essayer de repérer le point obscur du discours ethnologique lui-même. Ce qui prouve bien que la psychanalyse n'est pas qu'une psychologie individuelle. Elle a à dire sur le lien social, et c'est ce qu'il appelle Mythenforschung, c'est-à-dire les recherches en mythes. Mais, vous voyez, au fond, par exemple, l'ethnologie montre sans arrêt qu'il y a des interdits dans les sociétés. Freud montre que tout tourne autour de l'interdit de l'inceste, que cet inceste a un sens symbolique, et il finit donc par faire une théorie structurale du lien social, et à la fin, il lâche ce mythe. Hein, certains ethnologues avaient dit d'ailleurs, mais c'est juste une histoire, just a story. Hein, y a un ethnologue qui s'appelait Maret qui a dit, mais c'est une histoire qu'il nous raconte. Freud dit avec humour, ben oui, c'est juste une histoire que j'ai rêvée. Jones, son biographe, dit un dimanche. Non, il dit un Shabbat, un samedi. C'est très intéressant, ça veut dire qu'au fond, ben, il y a les jours où on travaille, évidemment il fait un clin d'œil à sa propre tradition, finalement il y a un moment où on peut dire quelque chose qui est un peu de l'ordre du loisir. Mais Freud tenait énormément à cette hypothèse, c'était plus qu'une distraction ou quelque chose comme ça qu'il disait pour se distraire. Ça c'est un point important, puisque nous travaillons à Paris 7 sur l'anthropologie psychanalytique, on peut à partir de là en faire une recherche actuelle, hein. Voilà. Cet métabou n'est pas que du passé, quoi.
Oui, absolument. Alors, ce que vous nous dites, Paul Laurensoun, c'est que dans le fond, cette histoire du meurtre du père nous donne d'une certaine façon la clé de tous les mythes.
Oui, mais alors, sous la forme, une forme paradoxale, non pas la clé qui ouvre universellement tous les mythes, mais le mythe qui permet de repérer le refoulé qui œuvre dans tous les mythes. Parce que, comme dit Freud, la psychanalyse, c'est une science des refus, c'est-à-dire des rebuts. C'est-à-dire qu'au fond, elle étudie tout ce dont les autres sciences de l'homme ne veulent pas. Voilà. Alors, c'est ça le refoulé. Hein. C'est un point qui paraît important. Hein. C'est pas ajouter du sens, un supplément de sens au mythe. C'est plutôt essayer de comprendre ce qui organise le travail interne du mythe. J'ajouterai aussi que cette histoire de meurtre du père, ça se joue entre hommes. Hein. Ça se joue beaucoup entre hommes. Et les femmes apparaissent comme un enjeu et comme un butin, si je peux dire, de l'histoire. Mais ça me paraît très intéressant. Le féminin, c'est en quelque sorte le reste du mythe. Reste extrêmement précieux. Un seul exemple. Freud nous dit que dans beaucoup de mythes, la femme est inculpée. Hein. La femme est inculpée. C'est-à-dire qu'au fond, le mythe médit de la femme, si je peux dire. Elle diffame la femme. Hein. Alors, bon, par exemple, on dit que le péché originaire a commencé par la faute de la femme. Bien, Freud dit c'est une inversion de l'inconscient. C'est-à-dire qu'au fond, les hommes se sont battus à cause des femmes, qui n'y étaient pour rien. Et ils ont fini, dans la transposition mensongère du mythe, par dire, finalement, c'est la femme qui est la cause de la culpabilité. Voilà un exemple.
Oui.
Ce qui montre que si
c'est un exemple d'ailleurs qu'on retrouve dans bien des mythes. Des mythes réels, des mythes produits par des peuples.
Tout à fait. Ouais. J'ajouterai peut-être encore un dernier point pour avoir tout le modèle freudien, c'est le mythe du héros. Car le héros, c'est celui qui a vraiment fait redémarrer la mythologie. Pourquoi ? Parce que le héros, vous savez ce que c'est qu'un héros ? C'est quelqu'un qui est supposé avoir réalisé un très grand exploit. Disons, arracher la femme prisonnière au dragon, et voilà. L'idée de Freud, c'est que le héros, c'est quelqu'un qui arrive à faire croire qu'il a réalisé seul l'exploit qui, d'après Freud, a été réalisé par les frères coalisés.
D'accord.
Il y a une sorte d'escroquerie dans l'héroïsme, mais cette escroquerie devient, au contraire, fondatrice dans les liens sociaux. Toutes les nations ont des héros constitutifs, n'est-ce pas, de l'ensemble de leur fantasme collectif. Et le héros est le fils préféré de la mère, vous voyez ? Comme parfois les femmes peuvent difficilement intervenir dans le pouvoir social, par contre, en tant que mère, elles produisent un héros glorieux, et ça on le retrouve dans toutes les mythologies. Voilà comment on peut dessiner l'ensemble de l'écriture du mythe, oui, freudienne, disons.
Un autre héros de l'aventure de la psychanalyse, de l'histoire de la psychanalyse, Jacques Lacan.
La psychanalyse s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On n'obtiendra pas d'autre mythe que ce qui en reste en ce discours, l'Édipe freudien.
Pas d'autre mythe oui. À se mettre sous la dent.
Alors,
Paul-Laurent Hassoun.
Lacan le dit avec son style elliptique, hein. Ce qu'il veut dire là, c'est dans la droite ligne de ce que j'ai essayé de suggérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconscient du mythe et que nous devons, en psychanalyse, être forcément réducteurs. Non pas pour tout réduire à l'histoire de mythe et de meurtre du père, mais disons que c'est différent. Chez Lacan, on en arrive au discours. Hein. Là, il fait allusion à l'envers de la psychanalyse, c'est-à-dire à chercher dans le discours, c'est-à-dire dans le fonctionnement des discours du maître, discours de l'analyste, de l'hystérique, de l'université, de chercher la structuration mythique. Hein. Ça veut dire concrètement que la société est un ensemble de discours. Quand on voit comment ça fonctionne, la société, bien sûr, il y a toute la réalité économique et sociale, mais ça cause, quoi. Ça produit du mythe en permanence. Donc, l'idée de Lacan, c'est qu'on peut éclairer, ça il faudra avoir le temps de le développer, on peut éclairer l'ensemble des mythes sociaux à travers ce noyau qui est signifiant. Hein. C'est-à-dire que Lacan ne croit plus du tout au mythe comme imaginaire, encore moins que Freud, je dirais. Il croit au langage et aux effets discursifs du langage.
Alors justement, c'est lui qui est l'auteur de cette formule célèbre, l'inconscient est structuré comme du langage.
Voilà.
Et justement, le langage qui est, comment dire, la langue commune entre l'inconscient, le mythe et le rêve,
oui.
C'est le langage symbolique du rêve. Alors, le deuxième grand ouvrage qu'il faut citer lorsqu'on évoque le rapport de Freud et des mythes, c'est évidemment l'interprétation des rêves, où le mythe oui. affleure constamment.
Oui, parce que Freud, au fond, pour la première fois, essaye de comprendre ce qui fait la logique du rêve au plan individuel, c'est-à-dire réalisation déguisée d'un désir refoulé. Et là, ça fait un très gros ouvrage qui montre tous les effets sur le rêve comme production onirique. Hein. Mais justement, il y a une analogie, pour être plus précis, il faudrait dire une homologie entre d'une part les rêves et d'autre part les fantasmes, les symptômes, mais aussi les mythes. Hein. Et donc, c'est ce qui explique que le rêveur retrouve chaque nuit les chemins du symbolisme.
Et de la langue des mythes.
Voilà. Alors chez Lacan, on n'a sans doute pas le temps d'en parler en détail, mais chez Lacan, vraiment, il y a le souci de nettoyer totalement cette problématique de tout mythologisme pour essayer de comprendre le symbolique. C'est pas plus simplement la symbolique des rêves,
oui.
C'est le symbolique, la structure, et donc de produire une analyse structurale.
C'est le symbolique qui est à l'œuvre dans le travail de l'inconscient.
Voilà. Mais, par exemple, il parlera du mythe personnel du névrosé.
Oui, puisque c'est toujours son point de départ. Hein. C'est-à-dire, oui. Il retrouve le mythe à partir du symptôme et de la névrose.
Oui, parce que il ne faut pas faire parler le mythe à livre ouvert, si je peux dire. À ce moment-là, vous tombez tout de suite dans une conception mystique, et ça a des effets parfois sympathiques, des effets beaucoup moins sympathiques. Hein. Par exemple, le mythe comme force irrationnelle. Hein, le nazisme était une pensée mythologique. Le mythe, c'était le folk, c'était le peuple, avec le peuple incarné dans la vie et avec tout ce que ça implique. Donc le mythe peut être nocif, le mythe peut être destructeur.
Alors, on le disait, il y a un autre terrain pour justement éprouver cette langue symbolique, c'est celui de la littérature, où le mythe oui. peut également s'exprimer. C'est le cas de ce très beau livre « Délire et rêve dans la Gradiva » de Jensen, dont je vous propose d'écouter un petit extrait.
Du haut de notre paisible supériorité, nous attendons maintenant de savoir quel rapport il y a entre la jeune fille et son image de pierre. Et comment notre jeune archéologue en est arrivé aux fantaisies qui font conclure à l'existence réelle de Gradiva. Mais notre héros n'est pas arraché aussi vite que nous à son délire, car lorsqu'une croyance vous rend bien heureux, dit l'auteur, elle vous fait avaler à doses massives toutes sortes d'autres invraisemblances. Et de plus, ce délire a probablement, au fond de Hanold, des racines dont nous ne savons rien et qui n'existent pas chez nous. Il a certainement besoin d'un traitement énergique pour être ramené à la réalité. Pour l'instant, il ne peut qu'adapter son délire à l'expérience miraculeuse qu'il vient de faire. Gradiva, qui a péri dans l'ensevelissement de Pompéi, ne peut être qu'un fantôme de midi qui revient à l'existence pendant la brève heure des esprits. Mais pourquoi, après cette réponse donnée en allemand, lui échappe-t-il cette exclamation « J'étais sûr que tu avais cette voix-là » Nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. La jeune fille aussi est obligée de la poser, et Arnold est obligé de reconnaître qu'il n'a encore jamais entendu cette voix, mais qu'il s'attendait à l'entendre naguère dans son rêve quand il l'avait appelée, tandis qu'elle s'allongeait pour dormir sur les marches du temple. Il lui demande de le faire à nouveau, mais alors elle se lève, lui lance un regard déroutant et, après quelques pas, disparaît entre les colonnes de la cour. Peu auparavant, un beau papillon a volté plusieurs fois autour d'elle. Selon l'interprétation de l'archéologue, c'est un messager de l'Hadès qui doit exhorter la défunte à y faire retour, puisque l'heure des esprits de midi est écoulée. Arnold peut encore lancer à la jeune fille qui disparaît « Reviendras-tu ici demain, à l'heure de midi ?» Mais il nous semble à nous, qui nourrissons maintenant à des interprétations plus terre-à-terre, que la jeune femme a vu dans la demande que lui a adressée Arnold quelque chose d'inconvenant et que, offensée, elle l'a quitté pour cela, puisqu'elle ignorait tout son rêve. Sa sensibilité n'aurait-elle pas perçu la nature érotique d'une telle demande, motivée aux yeux de Arnold par son rapport avec le rêve ?
Voilà, ce commentaire, donc, qui est le seul commentaire très construit de Freud, donc porté sur une œuvre littéraire. Donc, c'est l'écrivain allemand Jensen, dont Freud nous dit.
Pour faire plaisir à Jung, d'ailleurs.
D'accord. Donc Freud nous dit qu'il a de tout temps été, enfin l'écrivain en général, et en particulier cette figure-là, de tout temps été le précurseur de la science et par là aussi de la psychologie scientifique.
Oui. Cette histoire, c'est l'histoire d'un archéologue qui, au fond, organise un délire à partir d'une fresque. Voilà. Et donc, ça résume bien les choses. C'est-à-dire, là, il y a quand même, fond, le délire. C'est quand on est dans le mythe, les yeux ouverts, si je peux dire. Hein. C'est un moment où l'archéologue est envahi, en quelque sorte, par son propre désir, qui est le désir de la fresque, en même temps de cette femme qui s'échappe de la fresque. Et l'idée, c'est qu'il va être guéri de ce délire par une femme réelle. Voilà. Mais le mythe, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de délire collectif, une fabulation, on peut être plus précis, de délire, de rêve éveillé, en tout cas, mais qui soutient en même temps le désir des sujets, tant au plan individuel que collectif.
Donc il n'y a pas véritablement d'herméneutique, mais cette forme bien particulière d'analyse structurale chez Freud.
Voilà, l'herméneutique, c'est la croyance au sens. Or, là, ce qui est intéressant, c'est le symptôme, c'est le signifiant, et puis les effets de sens. Il y a bien des effets de sens du mythe, mais c'est peut-être à ne pas croire au sens du mythe qu'on arrive le mieux à en saisir les effets de sens, enfin les effets de sens les plus précieux. Voilà, me semble-t-il, la contribution freudienne à la mythologique.
Merci, Paul-Laurent Hassoun. Je rappelle que vous êtes professeur de psychopathologie, philosophe, psychanalyste et professeur de psychopathologie à l'université de Paris 7. Christophe Brault et Laure Egorov ont lu les textes. C'était Freud et les mythes, deuxième volet de cette série consacrée à la vérité des mythes que nous retrouverons demain avec Barbara Glosewski et La Voix des rêves.